Plus isolé que jamais sur la scène internationale, 3 jours après le détournement d'un avion de ligne européen pour arrêter un opposant, le président Alexandre Loukachenko est passé à l'offensive.
Nos adversaires de l'étranger et à l'intérieur du pays ont changé leur méthode pour attaquer notre État. Ils sont passés de l'organisation d'émeutes à une politique d'étranglement.
Dimanche, un avion de chasse biélorusse a prétexté une alerte à la bombe pour détourner vers Minsk un vol commercial de la compagnie Ryanair, reliant Athènes à Vilnius, avec 170 passagers à son bord. Un coup monté pour arrêter un opposant biélorusse et sa compagne. Outrés, les Européens ont fermé leur espace aérien aux avions biélorusses.
Il s'agit d'une triple attaque. Une attaque contre la sécurité aérienne, contre les citoyens européens à bord et contre la liberté de la presse.
Roman Protasevich, le jeune journaliste arrêté et sa compagne, sont apparus depuis dans des vidéos diffusées par le pouvoir biélorusse. Ses proches et l'opposition dénoncent des déclarations sous la contrainte.
He could be interrogated by KGB. He may be tortured now as an enemy of Lukashenko. We are dealing with the harshest regime in Europe in decades.
Face à ce régime autoritaire, allié de Moscou, l'Union européenne ne cesse de renforcer au fil des ans les sanctions, notamment économiques. Mais de l'aveu même d'Emmanuel Macron, cela ne suffit plus.
Aussi bien sur la Biélorussie que la Russie, aujourd'hui nous sommes à la limite des politiques de sanctions. Et donc la question sur le plan stratégique doit nous être posée.
Alors les Européens peuvent-ils faire plier Alexandre Loukachenko à coups de sanctions ? L'absence de condamnation russe laisse-t-elle présager de nouvelles tensions avec l'Union européenne ?
Nos 3 invités vont tenter comme une attaque contre l'Europe. Patrick Martin-Junier, un avion Ryanair, donc une compagnie irlandaise qui reliait 2 capitales européennes, Athènes et Vilnius, c'est un camouflet à l'Union européenne ?
Ah, selon moi, tout à fait, c'est un camouflet. C'est-à-dire, nous avons un avion de ligne qui veut rejoindre la capitale grecque Athènes jusqu'à Vilnius en Lituanie et qui, sous le prétexte qu'il passe dans l'espace aérien belarusse, est intercepté sous un faux prétexte d'une menace terroriste, alors que s'il y a eu une vraie menace terroriste, ça pourrait s'expliquer. C'était une fausse menace, c'était un mensonge éhonté uniquement pour en extraire un opposant politique. Donc, non seulement...
C'est un camouflet pour l'Europe.
C'est un camouflet pour l'Europe parce que ça remet en cause l'ensemble des règles de l'aviation civile internationale et européenne.
Revenons à la Biélorussie, ce petit, tout petit pays que l'on connaît mal, Claude, avec le chiffre du jour.
Oui, qui nous dit la centralité de la Biélorussie. Alors, chiffre du jour, 3642 km, c'est-à-dire qu'il faut faire 3142 km pour faire le tour de la Biélorussie, c'est la taille de ses frontières. Et en gros, un tiers de ses frontières, c'est avec la Russie. Un tiers de sa frontière, c'est avec l'Ukraine, pays à la bascule. Un tiers de ses frontières, c'est avec 3 pays, vous les voyez, de l'Union européenne. D'où question pour vous, Marie Mindras. Est-ce que la Biélorussie, au fond, c'est un morceau de la Russie, ce que pourrait penser M. Loukachenko, ou est-ce que c'est un pays européen, mais qu'un dictateur empêche de réaliser son destin ?
C'est un pays européen, il n'y a absolument aucun doute. Et les Russes, un jour aussi, vivront dans un espace européen. Je n'en doute pas une seconde. Mais pour Loukachenko, je peux vous assurer que la Biélorussie ne fait pas partie de la Russie, qu'il a des relations exécrables avec Vladimir Poutine, mais qu'aujourd'hui, il en a besoin, car depuis l'été dernier, et la formidable mobilisation de millions de Biélorusses...
Donc, après l'élection présidentielle volée.
Avant, déjà, pour obtenir que... un candidat de l'opposition puisse se présenter, et cela a été Svetlana Tikhanovskaya. Donc il y avait des manifestations en Biélorussie déjà depuis le mois de juin, et on peut considérer qu'au moins les 3/4 des électeurs biélorusses ont voté pour Svetlana Tikhanovskaya. Donc de ce jour, le 9 août dernier, où Loukachenko a été défait, mais a décidé de rester, eh bien, la société biélorusse est en combat contre son dictateur. Et ce dictateur tient parce qu'il est soutenu financièrement et militairement par le Kremlin. Mais Nicolas Tenzer, une petite précision, Marie Mandras dit c'est un pays européen qui a vocation à l'être. Mais comment un pays qui a été une république socialiste soviétique jusqu'en 91 peut être considéré comme un pays qui a vocation à être européen?
Très bien, un pays européen.
Voilà, et puis de toute manière, il y avait d'autres pays du glacis soviétique, hein, je veux dire, comme la Pologne, les pays baltes, la Géorgie, l'Arménie, alors qu'ils ne sont pas des pays membres de l'Union européenne pour les deux derniers. Enfin, je veux dire, ce n'est pas l'appartenance géographique. Ce n'est pas l'appartenance géographique. Pardon, excusez-moi.
Vladimir Poutine considère que c'est un pays européen.
Alors, justement, parce que, pourquoi ? Je reviens sur un point. Ce ne sont pas les frontières géographiques qui définissent la nature européenne du pays. C'est la volonté du peuple qui adhère ou non aux valeurs européennes. On l'a vu à Maïdan, lors de la révolution de Maïdan en Ukraine. On l'a vu dans les rues de Minsk et des autres villes européennes, où finalement cette révolution s'est faite au nom de nos valeurs. Alors pour Vladimir Poutine, c'est bien sûr, il n'est pas question de cela. Parce que lui, il reste que sur une ancienne stratégie, qui est celle des zones d'influence. Il considère, et c'est inacceptable pour les pays libres, qu'il a un droit de regard naturel sur le Bélarus, sur l'Ukraine, sur la Géorgie, sur l'Arménie, etc. Et donc c'est ça qu'il faut dire, ce n'est pas acceptable. Si ces pays, si ces peuples veulent un jour rejoindre l'Union européenne ou l'OTAN d'ailleurs, eh bien c'est la volonté de ces peuples qui doit prévaloir et des organisations qui les accueilleraient.
Patrick Martin-Genier, est-ce que l'Europe gagnerait à tenir un discours aussi clair que celui de Nicolas Tenzer? Nous devrions dire à ces gens... Vous êtes venez. Comme nous.
Mais nous le tenons, ce discours, puisque c'est six pays de l'entre-deux. Oui, pauvre Patrick Martin-Genier, excusez-moi. Ils font partie du partenariat oriental de l'Union européenne. Oui. Et la plupart ont aussi des partenariats avec l'OTAN. Je rappelle que la Russie avait ses partenariats avec l'Union européenne et avec l'OTAN jusqu'en 2008, c'est-à-dire la guerre russe en Géorgie. Donc,
tout à fait.
Vous n'êtes pas tout à fait d'accord?
Je vous rejoins tout à fait. Mais je crois que c'est une histoire de culture avant tout. Lorsque vous êtes dans un certain pays, vous savez, le général de Gaulle disait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Bon, ça veut dire que, eh bien, effectivement, je suis allé plusieurs fois en Pologne, vous allez un peu plus loin. En fait, il y a une culture européenne. Ils se sentent plus proches de l'Europe en termes culturels. Et même en termes politiques, vous savez. Et donc, je dirais que l'Europe, oui, elle a tout intérêt à attirer ces pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a une culture européenne, il y a une solidarité.
Je vous demande pardon, tout le décorum, les images qu'on a vues, le parcours de Loukachenko, cet sentiment qu'on a de voir un morceau d'Union soviétique prolongé jusqu'à aujourd'hui.
Mais c'est ce que vient de dire Nicolas Tenzer, c'est-à-dire que Vladimir Poutine, je vous rappellerai, a d'abord
commencé... Loukachenko, pardonnez-moi.
Non, mais Loukachenko, je veux dire, est protégé par la Russie, et donc il se voit en fait encore comme un satellite de l'ex-Union soviétique, même si il était dit par Mme Mandras qu'il entretenait des relations exécrables avec Vladimir Poutine. En fait, ils se tiennent les uns les autres, et on sait très bien aujourd'hui que financièrement, matériellement et militairement... Économiquement, militairement, stratégiquement. Rappelez-vous, lorsque l'Union européenne a voulu prendre des sanctions, il a commencé à faire bouger son armée en disant nous allons faire des manœuvres de solidarité commune. Donc ça rappelle tout à fait l'Union soviétique. C'était clairement un message envoyé à l'Union européenne et à l'OTAN de ne plus bouger.
Et on va entendre maintenant. Les services secrets du Bélarus, de la Biélorussie, les services secrets russes travaillent ensemble. Est-ce qu'il n'est pas un tout petit peu modéré ou diplomate, notre ministre des Affaires étrangères? Est-ce que, selon vous, mon Dieu, la Russie était dans le coup du détournement?
Alors, je crois que c'est très difficile pour un ministre des Affaires étrangères de se prononcer. Parce que nous sommes encore... Non mais, je trouve qu'il va un petit peu plus loin que d'habitude, quand même, notre ministre. Et bon... tout comme l'Union européenne à son conseil de
mais vous qui n'êtes pas ministre des Affaires étrangères.
Oui.
Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous, la Russie...
je réponds toujours par les faits. Donc ce que nous savons, c'est qu'il y avait à bord de cet avion qui a quitté Athènes, il y avait au moins deux agents des services du KGB biélorusse. Nous savons